Édition spéciale de la mouette crieuse. Le witness à Brest.
Édition spéciale, nous clame la mouette crieuse. Eh oui, lundi 23 mars, arrivée singulière au port de Brest. Un voilier frappe ses amarres sur les quais. Quoi de singulier? Ce voilier est un navire de 22,50 m. Eh oui, et c'est un navire arc-en-ciel. Le petit dernier de la flotte de Greenpeace. Son nom? Witness.
Le Witness? Yes! On va monter à bord pour découvrir ses installations énergétiques, ses systèmes de navigation, pour rencontrer son équipage et ses chargés de mission. Suivez-nous de la poupe à la proue. Mais avant de monter la coupée, notez bien cette traduction. Witness signifie témoin. Le Witness, témoin des pratiques de la pêche industrielle, sera au cœur de nos échanges, mais pas que. Alors, pour embarquer en toute aisance dans le récit de campagne de Greenpeace, notez aussi la signification du sigle AMP, AMP comme Air Marine Protégée. Allez, on a un peu de temps, on vous donne un aperçu de notre AMP Iroise. Forcément, on évoque le parc naturel marin d'Iroise, donc le PNMI, mais c'est loin d'être tout. On trouve les zones de protection spéciale plus connues sous l'appellation Natura 2000, à la pointe de Corsène, au Conquet, à Camaret, Ouessant-Molène, la presqu'île de Crozon, le Cap Sizun, la chaussée de Saint et plus au large. La question principale que nous souhaitons aborder sur le pont du Witness est finalement simple. Elle concerne le mot « protéger ». Quel type et quel niveau de protection les gestionnaires publics de nos aires marines protégées soutiennent-ils? Dans les AMP, la pêche industrielle, notamment, n'est pas illégale. Alors, quid de la situation à la pointe bretonne? Et puis, il y a la continuité terre-mer. Suite aux enquêtes publiques sur l'extension d'élevage porcin, nombre d'avis de citoyens contestent les avis favorables de notre parc naturel marin d'Iroise. Avant de vous embarquer dans cette édition spéciale de la mouette crieuse, émission proposée par le groupe local Greenpeace Brest et diffusée en carte blanche sur Radio U 101.1, ayons le réflexe du marin. On écoute Grand Corps Malade, bulletin météo.
C'est un bulletin météo sur un monde en mutation. Quotidien nuageux avec risque d'orage. Une époque embrumée à forte perturbation. Situation trop inégale impliquant des dommages. Le temps est très mauvais sur les trois quarts sud de la planète. Si vous prenez la vie, naissez plutôt au nord. Car les écarts se creusent, la carte est claire et nette. C'est un climat dangereux et il nous déshonore. Un vent frais de changement pourrait renouveler l'air, éviter les tempêtes sur l'avenir des enfants, dégager les consciences d'un brouillard ordinaire et remettre le baromètre sur un futur plus confiant. Sous cette pluie de contraste, nous ne sommes les otages que d'un silence cruel qui nous rend solitaires. Nous aurons le même soleil à force de partage et dès lors qu'il réchauffe nos instincts solidaires. Depuis l'aube, les hommes ont trouvé d'innombrables réponses, mais de toute évidence, pas toujours aux bonnes questions. Quand progrès et dérives s'accordent et nous enfoncent dans un chacun pour soi stoppant notre ascension. Et puisque le monde est devenu un village, on ne peut plus ignorer nos voisins, il est l'heure de créer un dialogue et de prendre un virage où on tissera des liens qui prouveront nos valeurs. Bulletin météo sur un monde un peu fou, mais l'homme peut décider du temps qu'il fera demain. Des éclaircies sont possibles sous un ciel moins flou, si la priorité revient à l'être humain.
Witness est qualifié comme le plus agile des bateaux de la flotte de Greenpeace. Il est certain que l'équipage a testé ses capacités à naviguer dans des eaux peu profondes au cours des campagnes précédentes, notamment en Manche, dans la zone du banc des Flandres, et notamment pour naviguer à proximité des navires industriels de plus de 100 mètres. Alors, avant de naviguer en Iroise, et notamment dans des secteurs mal pavés et plein de courants, du plateau Molenay à la chaussée de Sein, on est très curieux de découvrir les subtilités de ce voilier de 22,50 m. Alors ça tombe bien, je suis avec Elliot qui va nous dire qui il est et nous donner plein de détails techniques sur ce bateau.
Alors bonjour, oui, je m'appelle Elliot, je suis donc ce qu'on appelle un mate, un officier sur ce voilier, Witness. Oui, comme ça a été dit, c'est un voilier de 22,50 m sur pas loin de 6 mètres de large. Un voilier très très lourd aussi, tout en aluminium, qui avoisine les 50 tonnes actuellement. C'est un voilier qui a été construit en 2003 spécifiquement pour de la croisière polaire en Antarctique. Donc il a passé 20 ans dans les mers du Sud avant que Greenpeace International ne le reprenne et ne commence à l'utiliser pour ses campagnes. Donc c'est un bateau qui est vraiment fait pour affronter tout type de conditions et dans un certain niveau de confort, puisque le bateau accueillait des passagères et des passagers.
Alors je crois qu'il peut naviguer vraiment dans de très petits fonds, mais comment ça se fait? Il a un bateau quand même ça assez lourd, est-ce qu'il a une quille ou pas?
Oui, on a une quille, mais on est ce qu'on appelle un dériveur intégral, c'est-à-dire qu'en fait la quille peut être relevée entièrement. Le bateau est construit autour de son puits de dérive, donc on peut passer d'un tirant d'eau de 4 mètres à un tirant d'eau de seulement 1 m 40, ce qui nous permet de passer dans des endroits très peu profonds et même d'échouer le bateau si le besoin émergeait.
Alors on a un mât en fait qui est très très haut là, donc c'est un déplacement à la voile tout le temps je suppose, il n'y a pas de moteur à bord?
On a un moteur de 250 chevaux qui nous permet d'entrer et de sortir des ports, mais aussi parfois de presser la cadence si jamais nous sommes vraiment attendus ou si il y a pétole comme on dit, s'il y a vraiment une totale absence de vent. Sinon le bateau est vraiment très très bien très très bien toilé comme on dit. On a une très grande grand voile et on a trois voiles d'avant, un Genoa, un Yankee et une Trinquette. Et Witness vraiment navigue très très bien sous voile. Même avec des vents relativement faibles autour de 10 nœuds, on peut très bien avancer et on peut aussi continuer à naviguer relativement sereinement dans des conditions difficiles, quand ça avoisine ou voire dépasse les 40 nœuds.
D'accord. Et donc il y a aussi un système de navigation, je pense, assez sophistiqué à bord.
Oui, un système de. On a l'électronique un petit peu classique entre guillemets qu'on retrouve sur des bateaux de cette taille. On a des traceurs de cartes, un AIS, radar, un peu tout cet équipement-là. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Ce qu'on a en revanche en plus, c'est de l'équipement scientifique qui nous sert pendant certaines de nos campagnes. On a par exemple dans notre cockpit un hydrophone sur bobine qu'on a utilisé assez régulièrement et qu'on va bientôt utiliser dans les prochains mois pour une nouvelle campagne dans l'Arctique.
Donc, très bien. Alors on a en permanence en fait un équipage à bord et des chargés de mission, des gens qui viennent pour la mission. Vous êtes combien en fait pour l'équipage?
Alors pour l'équipage on est 5. On est 5 assez souvent pendant les périodes de maintenance ou quand il s'agit de convoyer le bateau d'un endroit à un autre. Pendant les campagnes, oui, ensuite l'équipage s'agrandit. On peut être jusqu'à 12 personnes à bord du Witness pendant les campagnes. Donc en général, en plus de l'équipage navigant, il y a des métiers comme des chargés de campagne, des coordinateurs, des activistes, des journalistes, des photographes, vidéastes, des scientifiques aussi notamment. On en avait 3 à bord pendant notre campagne arctique de l'an dernier. Une variété, on va dire, de différentes compétences réunies à bord.
Bon, très bien. Alors là, on a un temps idéal, mer plate pratiquement, mais il va y avoir un petit coup de vent de nord.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on va rester ici. on devait faire escale à Molenne dès demain, d'ailleurs. Mais du coup, et comme vous le dites, la météo se gâte. Donc on va rester ici et attendre de meilleures conditions.
Bon, très bien, merci. Allez, bonne campagne alors.
Merci. Avant de descendre au carré, on vous offre une petite perle.
Histoire de pêche par les Cowboys Fringants.
Le petit pêcheur gaspésien suivait son père chaque matin. 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large, le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps. Et au bout de 46 ans, le paternel comme de raison décida de jeter l'ancre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au la main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien voulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour mieux runner sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le père l'avait fait avec lui jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse, le bateau rempli de morue bien grasse. Petit pêcheur gaspésien, sans monter en lui le chagrin, quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec, plus jamais ils ne sentent l'odeur du varech. Le poisson est jamais revenu, et son beau bateau fut vendu, il ne lui reste que le paysage, et ses souvenirs quelque part au large.
En Gaspésie, vous l'avez compris, pas facile non plus d'avoir une pêche raisonnable et raisonnée. La conclusion de cette chanson nous dit « toujours plus et toujours plus gros » et la morale, c'est que ça devient toujours moins et toujours plus petit. Au moment où le Witness fait escale à Brest, le Festival des pêcheurs du monde en Bretagne Sud témoigne. La mère des pêcheurs souffre d'un déficit de représentation et d'imaginaire. Elle est victime de clichés réducteurs de vue marginale. Le ressenti et les paroles des hommes et des femmes de la pêche à travers les océans, leurs craintes et leurs espoirs disent combien le rapport des humains à la mer apparaît essentiel tant du point de vue alimentaire, environnemental que géopolitique. Alors ça y est, nous sommes arrivés et nous sommes montés à bord du Witness. Nous sommes en compagnie de François Chartier, chargé de campagne chez Greenpeace. François Chartier, vous demandez une pêche écologique et sociale en construction avec les pêcheurs artisanaux. Vous appelez le gouvernement à prendre une décision claire, bannir le chalutage de fond dans les aires marines protégées par une protection dite stricte. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant pour protéger la ressource halieutique ? François Chartier.
Oui, bonjour. C'est la question principale, c'est-à-dire que quelle est la situation ? Aujourd'hui, on a en fait une double crise. Une crise de la biodiversité, les ressources en poissons s'effondrent et il y a une surexploitation des ressources, plus les impacts déjà présents du réchauffement climatique, les effets des pollutions. Donc une crise massive de la biodiversité sur l'ensemble des océans. Et en parallèle, on a une crise aussi du secteur de la pêche. Il y a de moins en moins de bateaux, de moins en moins de pêcheurs. Les pêcheurs artisans n'arrivent plus à vivre de leur activité. Et donc la question, c'est quelles sont les mesures environnementale et sociale, comment on peut finalement mener une transition de fond, une transition structurelle pour à la fois restaurer la biodiversité des océans. La santé et la biodiversité des océans, c'est aussi un élément clé pour lutter contre le changement climatique. Tout ça est lié, tout en finalement redonnant de la vie à la pêche artisanale, à la petite pêche, à la pêche côtière qui est très ancrée dans les territoires.
Et donc, selon vous, est-ce que justement c'est suffisant pour valoriser cette pêche artisanale locale? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre peut-être?
Alors effectivement, il n'y a pas un seul outil qui résoudrait tous les problèmes, ça serait trop facile, on aimerait bien, mais il faut déployer une palette d'outils. Alors ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que finalement ces outils, on les connaît depuis longtemps, et ce qui manque, c'est la volonté politique. Alors les aires marines protégées, c'est un des outils à la fois pour protéger les océans et redynamiser la biodiversité, et c'est quelque chose qui est reconnu internationalement par la communauté scientifique. Et la France, comme beaucoup d'États, s'est engagée dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique à protéger 30% des océans. C'est à la fois donc un outil pour protéger la ressource, mais c'est un outil pour restaurer la pêche, puisque en fait, si on ferme une aire à la pêche, autour il y aura plus de poissons, les poissons ne connaissent pas la limite de l'aire marine protégée, et à terme ça fait du poisson plus gros, des meilleures captures et plus de ressources. Mais l'aire marine protégée à elle seule ne suffit pas. Il faut également, sur les 70% du reste des océans, mettre en place une pêche durable, mettre en place une gestion rationnelle de la ressource. Et ça passe par des choses comme une réflexion sur la sortie à terme de techniques de pêche comme le chalutage, sur donc la transformation des outils de pêche. Ça veut dire aussi une réflexion sur le partage des quotas entre les industriels qui appartiennent à des multinationales et qui pêchent sur l'ensemble du globe et des artisans ancrés dans leur territoire. Donc ils font d'une certaine manière un critère social au partage des quotas. Et puis c'est un enjeu aussi pour tout le monde, c'est-à-dire un enjeu de consommation. Combien de poissons doit-on manger? Qu'est-ce qui est pertinent en termes de consommation? Et en France, on importe 70% du poisson qu'on consomme. C'est des modèles de pêche hyper destructeurs, comme l'élevage de saumon, comme la pêche au thon tropical. Et donc, un des leviers, c'est aussi de réduire notre consommation comme on le préconise pour les protéines animales de manière globale. Donc, il y a une palette d'outils à mettre en place. Il y a les éléments politiques pour le faire. Maintenant, il faut la volonté politique au niveau national comme au niveau local et l'ensemble des acteurs, également des acteurs économiques.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut une meilleure connaissance des pêcheurs artisans dans les instances de représentation de la profession? Qu'est-ce que tu en penses?
Un des enjeux, c'est effectivement qu'il y ait une meilleure représentation de la pêche artisanale, de la petite pêche. Il y a toujours débat sur le vocabulaire, mais on voit, par exemple, dans le débat actuel assez tendu sur la répartition des quotas de maquereau ou des quotas de thon rouge, qui concernent vraiment au premier plan des pêcheurs d'ici. Il y en a qui, si on ferme leurs quotas, n'ont plus rien pour aller pêcher. Et eux sont sous-représentés dans toutes les discussions, ça c'est évident. Et après, ce qui nous semble important, c'est que pour la construction des aires marines protégées, et c'était l'exemple qui était donné avec Caprou. Alors Caprou, c'est en PACA, c'est pas dans la région, mais c'est l'initiative des pêcheurs. Et ici, on a des initiatives comparables et qui sont extrêmement intéressantes. Je pense par exemple à la fermeture saisonnière du bar. Donc les ligneurs de bar s'imposent une fermeture saisonnière pour que la ressource puisse se régénérer, ce que font pas les chalutiers, eux ils continuent. Là, la pêche au bar, elle va rouvrir le 1er avril. C'est d'une certaine manière une AMP temporaire. Il y a aussi ce qu'on appelle un cantonnement de pêche. Le cantonnement de pêche, c'est quand c'est l'initiative des pêcheurs, mais ça revient même, c'est une AMP, du côté de la chaussée de Saint, où là aussi, il y a des zones fermées, et ça marche. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on protège vraiment, ça marche, le poisson revient, les habitats se reconstituent, et ça crée de la ressource. Et ça, les artisans l'ont mieux compris que les industriels. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Ouais.
Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut surveiller de plus près la pratique de la bolinche, technique conçue pour les poissons côtiers, en particulier les poissons bleus tels que sardines, maquereaux et anchois? Il faut surveiller plus.
Il y a toujours un enjeu de contrôle des pêches et un enjeu de contrôle dans les aires marines protégées. On voit bien comment les budgets de protection de l'environnement sont malmenés depuis des années. On le voit aussi bien aussi comment des institutions comme l'OFB sont la cible des forces politiques les plus conservatrices et qui s'opposent à toute mesure de protection. Et ça ne concerne pas que la pêche, évidemment. Après, sur la bolinche, finalement, le problème, et ça les artisans le disent très bien, on a détourné l'objectif de cet engin. Cet engin, c'est effectivement fait pour aller pêcher du petit poisson bleu. Avec un enjeu, hein, c'est-à-dire que si on surpêche la sardine, parce que c'est une pêche intensive, eh ben on réduit la capacité à pêcher du bar, puisque bah, le bar se nourrit de sardines comme nous, finalement, j'ai envie de dire. Et la belinche est maintenant utilisée pour cibler d'autres espèces. Ils vont aller chercher du lieu, ils vont aller chercher du bar, justement, et très, très, très près des côtes. Et là, les volumes pris par rapport aux volumes que prennent les ligneurs fait que c'est une catastrophe pour les artisans, parce que d'une certaine manière, après les passages des belincheurs, il n'y a plus rien pendant plusieurs jours. Et ça, c'est dénoncé depuis des années. Et donc, effectivement, on pourrait imaginer de restreindre davantage certaines zones de pêche à ces techniques, comme la belinche, mais il y a eu le débat sur les chalutiers à quatre panneaux. Enfin, les débats sur les techniques de pêche destructrices de ce secteur qu'on pourrait appeler semi-industriel sont très anciens et dénoncés depuis des années par les artisans. C'est pour ça que nous, en accord avec ce que disent les scientifiques, on dit, dans un premier temps, aucun chalutage de fond ou engin traînant dans les aires marines protégées. La question de la belinche, c'est finalement, le problème, c'est que c'est trop efficace.
Eh bien, merci beaucoup, François Chartier. Bah écoutez, voilà, la mer, c'est aussi les vacances, les souvenirs. Et on va écouter Michel Jonas, les vacances au bord de la mer.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
François, oui, encore une question, puisque Armor, en bon breton, désigne le bord de la mer, donc le littoral breton. Et doit-on le rappeler, ce littoral est avant tout rural. Sur ces territoires, on a aussi une industrialisation, c'est celle des élevages, et elle a pris de l'ampleur les dernières années pour satisfaire les besoins des lobbies agroalimentaires. Donc, les enquêtes publiques sur l'extension d'élevage porcin se succèdent sur le littoral, bordant notre parc naturel marin d'Iroise notamment. Et les avis favorables du parc sont incompris de nombreux citoyens et des associations par ailleurs engagées dans les procédures de justice à cet effet. Peut-être faudrait-il plus de moyens pour je reprends votre expression, documenter les fléaux qui ravagent les océans.
Alors effectivement, si on parle de protéger les aires marines protégées, c'est évidemment des activités de surpêche, mais on ne peut pas tourner le dos à ce qui vient de la terre, et notamment aux pollutions liées à cette industrialisation de l'élevage. Et d'une certaine manière, on a un peu le même problème en miroir et à une autre échelle que l'industrialisation de la pêche. C'est clairement pas ce modèle-là qu'on peut défendre, et c'est pas ce modèle-là qui va à la fois garantir une alimentation saine, accessible à tous, et la préservation des milieux terrestres et marins. Et c'est totalement plus absurde qu'on parle d'aires marines protégées si les eaux usées de ces activités industrielles, mais toutes les eaux usées d'ailleurs plus largement, arrivent dans une aire marine protégée. Et c'est incompréhensible aussi pour les pêcheurs. Ils ont l'impression d'être stigmatisés et d'être finalement les responsables de la totalité des problèmes qu'il peut y avoir sur un territoire. Et donc oui, il est extrêmement important d'intégrer ces enjeux. Qu'est-ce qui vient de la terre? Les littoraux, c'est finalement une membrane entre deux milieux. On ne peut pas protéger bien les écosystèmes marins s'il y a des pollutions de tout ordre qui se déversent dans les eaux. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on est d'accord avec les acteurs du milieu de la pêche. Et c'est important aussi de montrer que finalement, même si on a des points de désaccord sur les niveaux de protection dans les aires marines protégées, sur certains aspects de gestion, et c'est, voilà, il y a un dialogue à construire, on n'est pas d'accord surtout avec certains pêcheurs. En revanche, il y a un consensus contre ce modèle agricole d'élevage. Et puis, plus largement, ce qui est intéressant aussi, puisqu'on parle de produits de la mer, contre une industrialisation de l'aquaculture. Il y avait des projets de fermes à saumon qui ont été rejetés ici en Bretagne. Heureusement, ça ne s'est pas implanté. Mais on a ce problème en Gironde avec une installation géante. Et c'est finalement un peu le pendant maritime de ces énormes fermes à cochons. Donc oui, il faut sortir et de ce modèle industriel et faire tout pour que ça finisse pas dans les océans au sens large, mais encore moins dans une aire marine protégée. Sinon, c'est totalement illisible comme situation.
Voilà, et donc sur le passage du Witness à Brest, il me semble que vous allez rencontrer différents partenaires institutionnels. Est-ce que tu peux en parler un petit peu?
Oui, donc on est là, on a commencé le lundi 23 notre présence dans la région pour 3 semaines. Donc l'idée, c'est à la fois de rencontrer les acteurs du milieu de la pêche, des différents secteurs, hein, les plus artisans, des petits métiers, jusqu'aux représentations nationales à Lorient, et de rencontrer aussi les acteurs de la société civile, donc les associations qui militent, hein, pour la protection des aires marines protégées, contre ce modèle industriel d'élevage qui est ravageur, et puis de rencontrer aussi les acteurs institutionnels. On a rencontré déjà l'IFREMER et un certain nombre de chercheurs, et on voit d'ailleurs, hein, finalement que les choses évoluent et que la question de la protection des océans et la réflexion sur une transformation structurelle du secteur de la pêche progresse. On doit rencontrer aussi les responsables de l'OFB. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un dialogue constructif avec tous les acteurs qui sont impliqués ou dans les aires marines protégées ou dans la gestion et la protection des océans ici en Bretagne et en particulier dans le Finistère.
Merci et bonne fin de campagne.
Those oceans. Ocean Eyes.
C'était Billie Eilish, Ocean's Eyes. Alors nous avons rejoint Kim Talley, qui est chargé de communication pour cette campagne Océan de Greenpeace France. Après cette campagne que vous poursuivez donc vers Bénodet du 31 au 2 avril, Concarneau du 3 au 7 avril et Lorient du 7 au 10 avril, que se passe-t-il pour vous ?
Eh bien déjà, ce qui se passe pour nous à ce moment-là, c'est qu'on pourra continuer le travail de prise de contact avec des acteurs locaux qu'on aura largement entamé ici à Brest. De toute façon, tout ce voyage nous permet de mieux connaître aussi les enjeux spécifiques au territoire finistérien, mieux connaître les enjeux spécifiques aux pêcheurs artisanaux et aux autres pêcheurs aussi, pour pouvoir poursuivre la campagne Océan de Greenpeace France, qui bénéficie déjà d'une longue expérience de plusieurs années de travail en réalité sur les aires marines protégées, notamment la haute mer aussi.
Ok, et alors ensuite, est-ce que ce sera fin de mission avec retranscription avec un S d'un dossier de presse du type « Un mois à bord du Witness » avec peut-être en sous-titre « Témoigner de l'absence de protection dans ces aires marines » ?
Alors on n'a pas prévu de dossier de presse, ni de communiqué de presse. L'idée de ce voyage, c'est vraiment de venir au contact des pêcheurs, de scientifiques, d'acteurs divers et variés, comme Eaux et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, l'Ifremer dont on parlait auparavant. C'est pas du tout de communiquer dessus et de promouvoir en tout cas ces rencontres-là. Là, à ce stade, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est vraiment discuter, venir au contact et pouvoir réfléchir du coup à comment travailler ensemble par la suite. Et donc, il n'y a pas de communication qui sera enjointe à tout ça.
Oui, alors Kim, on se disait en approchant de Brest, mais que peut-être voilà dans mon imaginaire ces missions en mer. Est-ce que par moment vous vous êtes senti en danger, voilà, lorsque vous vous approchez des navires qui se comportent pas forcément comme ils devraient. Comment ça se passe ?
On se sent pas en danger à bord du Witness. Déjà parce que le bateau porte bien son nom et en fait il est avant tout fait pour témoigner, éventuellement dénoncer, mais en tout cas témoigner de ce qu'on voit, de ce qu'on constate, de ce qui se passe sur le terrain, en mer, etc. Donc il n'y a pas de confrontation a priori, en tout cas ce n'est pas le projet de ce bateau et ce n'est pas les missions qu'on confère à ce bateau. C'est un petit peu différent par exemple d'un autre bateau de la flotte Greenpeace qui s'appelle l'Arctic Sunrise et qui lui est un brise-glace. C'est pas tout à fait le même format déjà. On est quand même beaucoup plus nombreux à bord et puis c'est très différent. On peut faire des manœuvres très différentes, on peut aller plus loin, plus vite aussi. Là on n'est pas du tout dans cette configuration là. Donc déjà le bateau porte bien son nom là-dessus. Nous on a chez Greenpeace on a quand même rarement volonté d'aller au clash, si je puis dire. On va plutôt être amené à montrer encore une fois comment ça se passe en mer, éventuellement si c'est pertinent pour la campagne. Et quand c'est le cas, on fait quand même attention à ne pas faire monter la pression non plus. Il faut se rappeler que Greenpeace a dans son ADN une valeur cardinale qui s'appelle la non-violence. Et ça vaut aussi sur la question du comportement et de tout ce qu'on projette en fait sur les personnes qui sont nos adversaires à un instant T. Ce qui signifie qu'on va vraiment faire tout ce qu'il faut et tout le possible en tout cas pour ne pas faire monter la tension, pour même la faire baisser en réalité si jamais elle monte un peu trop haut et faire attention à ça. Et dernière chose, il faut se rendre compte quand même que, et les pêcheurs le savent mieux que personne, les règles en mer sont très différentes que quand on est dans la rue. Le temps passe différemment, il y a une autre façon de se confronter, on va dire, si jamais c'était le cas. C'est pas encore arrivé à bord du Witness, heureusement. Donc ça, c'est très différent. Et voilà.
Bon, donc on ne rencontre pas forcément les cow-boys et les Indiens.
Pas encore. Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est pas le cas. Et puis, quand bien même ce serait le cas, on saurait faire face déjà. On saurait faire face. Et puis ensuite, c'est vrai que ça a pu arriver qu'on entende des noms d'oiseaux à travers la radio. En revanche, ce n'est jamais arrivé que des pirates prennent le Witness à l'abordage. Mais voilà, on est vraiment là dans une démarche, je pense que c'est important de le rappeler, on est vraiment dans une démarche, c'est vraiment une opération drapeau blanc. On veut discuter, on veut rencontrer et on n'est pas là pour se confronter en tout cas.
À l'intérieur du bateau, c'est magnifique. Voilà, ça fait quand même rêver. Mais peut-être, alors, bon, vous n'êtes pas, vous êtes à bord aussi quand même ? Ouais, ok. Et comment ça se passe d'ailleurs à la vie à bord, qu'on explique peut-être un petit peu à nos auditeurs, parce que voilà, entre le fantasme et peut-être la réalité, il y a des choses à dire.
Alors, la vie à bord, déjà, il faut s'adapter à un bateau qui est quand même assez petit. Il y a un petit équipage aussi de 5 personnes. C'est un bateau qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes maximum. Donc il y a des couchettes, il y a tout ce qu'il faut ici. Simplement, c'est vrai qu'il faut s'habituer à une vie de proximité. Heureusement, le temps est très clément en ce moment avec nous et donc on peut se permettre d'aller un peu dehors aussi. Dans tous les cas, il y a tout ce qu'il faut à bord. Ici, on est dans ce qu'on appelle le mess ou le carré. C'est un peu le réfectoire, on va dire. On a un coin cuisine qui est très complet. Il y a même un four. Il y a un four à bord d'un bateau. Vous avez des bureaux aussi disséminés ça et là. Il y a des banquettes pour pouvoir s'asseoir, se relaxer, travailler si besoin. Et puis, il y a toutes les salles des machines derrière, plutôt à l'arrière du bateau. Et tout un tas de couchettes, cabines couchettes qui courent autour de la quille et de la salle des machines. Tout ça, c'est quand même géré et particulièrement entretenu par cet équipage justement qui est à bord. Un équipage qui est composé de collègues de Greenpeace International, mais qui vient d'un peu tous les pays. Heureusement, cette fois, on a 2 francophones. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Le reste du temps, de toute façon, la langue officielle à bord des bateaux Greenpeace, c'est l'anglais. Et donc voilà, la vie d'un bateau est celle-ci. On s'organise du matin au soir. Il y a une répartition des tâches qui s'effectue aussi, notamment sur le ménage, la préparation des repas. Et puis, du travail de campagne quand c'est pertinent. Et en dehors de ça, en ce moment, en réalité, on occupe pas mal le réfectoire pour faire des rencontres. Parfois, on se sert du pont aussi, on s'assoit en haut, quand on est très nombreux comme hier avec l'Ifremer. Mais voilà, c'est plutôt une gestion collective et surtout grâce à l'équipage. Et j'en profite pour les remercier pour leur accueil.
Très bien, mais merci beaucoup Kim. On va changer d'environnement et puis on va remonter donc à l'air libre. Voilà.
Voilà, remontons à l'air libre avec Nolwenn Leroy et Christophe Miossec, Brest.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest ? La rade, le port, ce qu'il en reste. Le vent de l'avenue Jean Jaurès.
Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre.
recouvrance que l'on délaisse. La rue de Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse. Je suis sur des nuages et de tes caresses.
Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu, que la vie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu, que la vie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.
Toi aussi, ça te bouleverse. Ces quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'au moins aujourd'hui, quelqu'un
te berce?
Poissons sauvages, crustacés, coquillages dans nos assiettes racontent l'histoire des femmes et des hommes qui récoltent et pêchent tout en veillant sur les mers. Pêche raisonnée et consommation responsable font face à la mondialisation marchande des produits de la mer. La réglementation complexe ne répondant pas à leurs attentes, les sentinelles des océans développent une vigilance accrue pour documenter les pratiques industrielles. Pour que les aires marines protégées soient mieux protégées de la pêche destructrice et des pollutions, le Witness poursuit la campagne de Greenpeace. Agnès et Claude vous ont embarqué le temps de cette émission avec Greenpeace. La Mouette Crieuse vous emmènera côté rivière le 5 avril avec l'École du Dehors sur Radio U 101.1. On se quitte pour un long voyage avec Enya, Orinoco Flow. Sail away, sail away, sail away. Sail away, sail away, sail away.